France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano, Joséphine Reinhardts et Antoinette Benoît. À la réalisation, c'est Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, Grégory Wallon. Alors que les catholiques du monde entier se préparent à célébrer Pâques, Culture Monde s'intéresse à une communauté traversée par les doutes, qui s'interroge sur sa place dans le monde et qui s'inquiète pour la santé du pape. Pourquoi les messages de paix de François paraissent-ils inaudibles face aux guerres? Que révèle la montée des identitaires incarnée par Jed Evans aux États-Unis? Le rôle de contre-pouvoir des évêques en République démocratique du Congo est-il fragilisé? Telles sont les questions que nous déroulerons cette semaine. Et on commence ce matin avec la réforme de l'Église, querelle de chapelle au Vatican.
Nous voulons une Église qui veille sur l'humanité avec miséricorde. Une Église unie et fraternelle, ou du moins qui essaye d'être unie et fraternelle. Ce regard accueillant de Jésus nous invite à être une Église hospitalière, pas une Église avec des portes fermées.
La question des LGBTQ+, la question de l'ordination des femmes constitue une sorte de tension, pas dans la salle parmi les participants ou aussi même à l'extérieur.
Éminence, en 2002, 7 femmes ont été ordonnées prêtres sur le Danube. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est une provocation insensée, puisqu'en tant que femmes, elles ne peuvent fondamentalement pas être ordonnées prêtres.
C'est en 2023, après un long travail de consultation mené dans les diocèses du monde entier, que le pape François a décidé d'ouvrir un grand chantier de réflexion sur l'avenir de l'Église. Parmi les thématiques abordées, la question de la toute-puissance du clergé dans la vie religieuse, la place des femmes, le célibat des prêtres, mais aussi la gouvernance de l'Église que le pape voudrait plus inclusive et plus décentralisée. Élu en 2013, au moment où l'institution se retrouvait minée par les révélations de pédocriminalité et les scandales financiers, le pape argentin Jorge Bergoglio n'a jamais caché son intention d'engager de profondes réformes. Et c'est pourquoi le synode sur la synodalité s'est assemblé chargé de réfléchir à l'avenir de l'Église, dont la première session s'est tenue à l'automne 2023, a été qualifié d'historique. Non seulement par les thèmes abordés, mais aussi par la méthode qui associait pour la première fois des laïcs et des femmes au processus de réflexion et au vote. Les conclusions, rendues le 26 octobre 2024, apparaissent toutefois modestes aux yeux des observateurs. Point de révolution au sein de l'Église, mais quelques avancées que le pape, malgré sa santé chancelante, voudrait voir appliquer sans tarder. 6 mois après la remise de ses conclusions, quel est vraiment le bilan du synode? À quelle résistance interne les ambitions de François se sont-elles heurtées? Quelle est d'ores et déjà la place de cet événement dans son héritage? On en discute avec nos invités, tous deux basés à Rome. Marco Politti, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes journaliste italien, spécialiste du Vatican. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le pape François, dont le dernier est à paraître fin mai aux éditions Plon, intitulé « François, l'Église déchirée ». Et à vos côtés, Michael Corr, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également, vous êtes journaliste au journal La Croix, en charge de l'actualité du Vatican, et on peut lire évidemment vos articles sur le site internet et dans la version papier du journal. Et je voudrais qu'on commence avec vous qui suivez au plus près l'actualité du Vatican sur cette séquence récente qui a beaucoup inquiété le monde catholique, à savoir l'hospitalisation du pape qui a duré plusieurs semaines pour une infection pulmonaire assez grave. Michael Corr, dans un contexte d'une organisation très hiérarchique où le pape dirige à la fois l'Église et le Vatican, comment sa maladie a-t-elle été vécue sur place et en quoi a-t-elle été source d'incertitude, peut-être même de désorganisation?
Alors je dirais qu'il faut distinguer deux phases. La première,
lorsqu'on a vraiment cru que le pape allait mourir, il a véritablement failli mourir. C'est en tout cas ce qu'a dit son médecin personnel, Sergio Alfieri, lors d'une interview. Il a failli mourir à deux reprises, donc à la polyclinique de Gemelli. Ça, c'est la première phase. Donc à ce moment-là, il y a des choses qui se sont évidemment arrêtées. D'autres ont continué. Je prendrai simplement l'exemple des nominations d'évêques. Voilà, le Vatican a continué à avoir des nominations d'évêques quasiment chaque jour pendant l'hospitalisation du pape. Donc, les affaires courantes ont continué, à fonctionner sur la base des décrets déjà pris par le pape François qui permettaient de fonctionner. Mais il y a des choses qui se sont arrêtées. Je pense par exemple au travail des 10 groupes sur la synodalité. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ces 10 groupes nommés par le pape François pour travailler sur des points spécifiques dans ce grand projet de réforme de l'Église qu'il a entrepris donc il y a quelques années. Voilà, ce travail-là est tellement associé au pape François que les choses se sont un petit peu mises, je dirais, en pause. Et là, aujourd'hui, on est dans cette deuxième phase, c'est-à-dire que là, le pape François n'en finit plus d'apparaître. Il est apparu sur la place Saint-Pierre. Il s'est déplacé dans la basilique aussi de manière inopinée pour aller prier il y a quelques jours devant la tombe d'un de ses prédécesseurs. Il s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans laquelle il aime beaucoup aller prier avec un bouquet de fleurs devant la Vierge. Voilà, là on sent que le pape va mieux. En tout cas, il y a le désir de montrer qu'il est de nouveau aux manettes. Et du coup, il y a aussi ce que des sources me disent, il y a simplement le pape qui demande des comptes, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé durant mon hospitalisation, est-ce que des sujets ont avancé, et notamment sur ce sujet de la synodalité.
Alors il y avait évidemment, comme dans tout État, une administration qui gère les affaires courantes, vous le disiez, Michael Corr. Je me demandais simplement, dans ce contexte encore une fois extrêmement hiérarchique, on parle parfois du Vatican comme une monarchie absolue, Marco Politi, si l'absence du pape avait créé, certains ont parlé d'une crainte de vide de pouvoir, est-ce qu'on peut le dire comme ça ou est-ce que c'était une expression un peu exagérée?
Ah non, certainement, c'est exagéré de parler d'une vide de pouvoir parce que, disons, la machinerie continue à travailler. Mais c'est important d'ajouter que dans son lit d'hôpital, François a lancé un grand projet triennal. Et ce projet est que les prochaines 3 années, toute l'Église, à commencer des diocèses, des paroisses, les conférences épiscopales, les conférences continentales, doivent travailler sur les résultats du synode 23-24. Et à la fin de ce processus, dans l'année 28, il y aura une grande assemblée ecclésiale, une sorte de mini-concile pour voir ce qu'on doit décider pour les réformes. Ça, c'est très intéressant parce que personne ne peut savoir qui sera le pape dans l'année 28, mais ça montre la volonté du pape que tout le monde ne se préoccupe pas seulement de la santé, s'il parle, s'il non parle, s'il peut respirer ou non, mais il veut que l'Église continue à travailler sur la ligne des réformes.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Un très court extrait de l'apparition surprise du pape François sur le parvis de la place Saint-Pierre le 6 avril, où il a assisté à une célébration et salué les fidèles. Michael Corr, le pape a reçu une prescription de repos absolu de 2 mois par ses médecins. En quoi ces apparitions et cette reprise des activités, parce qu'il a aussi visité les travaux de la basilique Saint-Pierre, il a reçu le roi Charles III, qu'est-ce que ça dit de sa détermination personnelle au travail, d'une part, mais aussi par rapport à ce que disait Marco Politi, d'un attachement et d'un enjeu qu'il y a pour lui en ce moment à faire en sorte que tous les chantiers de réforme qu'il a lancés continuent.
Alors déjà, on connaît la personnalité du pape François, il suffit de lire certaines de ses biographies. Il le dit lui-même dans certaines de ses biographies, il est un malade et un convalescent assez indiscipliné. C'est-à-dire que les médecins lui conseillent un repos absolu, mais ensuite François dispose. Maintenant, bon, les derniers éléments qui nous parviennent disent qu'il va mieux. Après, on n'est pas du tout dans les images qu'on pouvait voir à la fin de vie de Jean-Paul II, qui était une forme d'exposition de la faiblesse, avec aussi un discours théologique sur la faiblesse, sur la fin de vie, qui est celui de l'Église catholique. Là, on voit bien que quand François apparaît, avec ou sans ses canules nasales qui lui délivrent de l'oxygène et qui l'aident à respirer, c'est souvent pour montrer qu'il va mieux, pour montrer qu'il est aux manettes, qu'il entend poursuivre ses réformes. Je crois que ce que disait Marco Politi sur le fait qu'il a fixé depuis son lit d'hôpital un calendrier jusqu'en 2028, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans... On parle quand même d'une administration qui administre pour le monde entier. Il faut se mettre à la place d'un évêque. Bon, le synode sur la synodalité, comme beaucoup, il a trouvé ça un petit peu abscon. Le synode sur la synodalité, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En fait, voilà, le pape François voulait réformer l'Église pour une plus grande place des laïcs, pour une plus grande place des femmes, pour aussi une professionnalisation au sein des paroisses et des diocèses sur des questions financières, de lutte contre les abus sexuels. Ben voilà, c'est ça dont on parle. Mais finalement, cet évêque-là, il ne s'est pas très bien senti concerné. Il s'est dit, bon, ben voilà, le pape a lancé ça, mais on verra un petit peu ce que fera le prochain. Et voilà, ben le pape François dit non. Le prochain, il est engagé, puisqu'on ne sait pas vraiment si le pape François sera là en 2028. Et puis, d'une manière générale, là, on demande déjà des comptes aujourd'hui, etc. C'est-à-dire que là, on n'est vraiment pas dans un pape convalescent qui vient devenir un signe fragile et nous parler de manière, je dirais simplement... poétique et théologique. Non, on est vraiment dans un gouvernant qui vient nous dire qu'il est encore aux manettes et qu'il entend continuer à gouverner l'Église.
Mais est-ce que ça veut dire, Michael Corr, puisque vous révéliez dans un article de La Croix publié le 15 mars que le secrétaire général du synode, Mario Grech, a adressé une lettre à l'ensemble des évêques dans laquelle justement il rappelle que le pape a donné approbation aux conclusions du synode et qu'il s'agit à présent de les mettre en œuvre. Est-ce que cette lettre est le signe que le pape craint que ce grand chantier qu'il a ouvert et sur lequel on va revenir ne soit pas appliqué et peut-être justement à la faveur de la dégradation de sa santé ?
Bah, force est de constater que les grandes voix conservatrices opposées au pape François, on les entend peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'est le sentiment que moi je peux avoir. On sent que voilà, certains attendent que le pape François ne soit plus là et en imaginant un retour, j'allais dire, à la normale de leur point de vue, mais un retour aussi à un certain respect des normes, parce que ce que beaucoup critiquent au pape François, c'est pas uniquement de prendre des libertés avec... c'est pas simplement sur le fond, c'est aussi sur la forme. Le pape François a une habitude de se soustraire à certaines formes. Alors, quand il s'agit de ne pas porter des chaussures et des chaussettes rouges...
qui est un usage, normalement, pour les papes.
Voilà, on peut dire qu'il y a quelque chose de... On est en tout cas sur un enjeu d'image. Mais si je prends, par exemple, une nomination récente, qui a été une nomination historique, hein, quand le pape François a nommé Simona Brambilla, donc une religieuse, donc une femme, à la tête d'un dicastère, donc c'est un équivalent d'un ministère au Vatican, donc elle est préfète d'un dicastère, pour les instituts de vie consacrés. Ça veut dire qu'elle gère les questions et les affaires de tous les monastères, les religieux, les religieuses dans le monde entier. C'est absolument colossal. Et bien, il a nommé à ses côtés un cardinal pro-préfet. Alors, je pourrais rentrer dans des milliers de détails techniques, mais les canonistes aujourd'hui sont en train de réfléchir, de s'arracher les cheveux sur pourquoi il a fait ça. Est-ce que ça veut dire qu'elle est sous tutelle? Mais est-ce qu'on avait du coup besoin d'un cardinal à la tête de ce dicastère, etc., etc. Je prends juste cet exemple pour dire que parfois, certaines actions du pape François laissent des flous. Voilà, laisse des flous, notamment sur le plan canonique, ce que lui reprochent beaucoup ses détracteurs, mais pas uniquement, ce que lui reprochent aussi tout simplement des canonistes. Donc voilà, il y a des gens qui attendent un retour à la normale, c'est sûr.
Et c'est peut-être aussi une posture d'équilibriste qu'essaye de tenir François entre les différents courants idéologiques qui traversent l'Église. Marco Politi, donc ce synode sur la synodalité, il faut à chaque fois rappeler de quoi il s'agit, parce que le terme pour les profanes n'est pas facile à comprendre, donc cette assemblée de représentants de l'Église qui ont été conviés à réfléchir à l'avenir de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte ce synode est convoqué en 2023? Finalement, à quel défi l'Église doit-elle répondre à ce moment-là?
Alors, disons que synodalité, c'est un mot grec et très simple, ça veut dire aller ensemble, agir ensemble. Alors, en des termes laïques, on peut dire que c'est une synode pour transformer l'Église à partir d'une structure très centralisée et très monarchique vers une structure communautaire, vers une structure de participation. Les trois points plus importants des conclusions du synode, c'est la nécessité d'avoir dans tout le monde catholique des conseils de participation. Alors, nous avons déjà en Italie, en France, dans l'Amérique du Nord, beaucoup de conseils pastoraux, conseils paroissiaux, mais c'est pas diffusé dans tout le monde. Et surtout dans le sud global, il y a encore l'habitude que les prêtres, les curés est vraiment le monarche absolu de sa paroisse et l'évêque, c'est le monarche absolu de la diocèse. Alors, introduire à tous les niveaux ces conseils de participation, c'est important. Le second point de la conclusion du synode, c'est avoir, ou mieux, mettre des femmes dans des postes dirigeants. Il ne doit plus être seulement collaborateur, collaboratrice, mais les femmes doivent être à la tête des organismes qui décident, qui dirigent. Et ça aussi, c'est une révolution à achever. Et le troisième point, c'est d'introduire une mentalité de rendre compte, pas seulement sur le plan financier, mais aussi après 5 ans, disons, qu'est-ce qu'a fait l'évêque, qu'est-ce qu'a fait la diocèse, elle a travaillé bien, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui doivent être changées. Mais disons que ce programme de réforme, on ne doit jamais oublier que le contexte est d'une guerre civile à l'intérieur du monde catholique.
C'est-à-dire?
C'est 10 ans après. C'est-à-dire qu'après le moment où le pape, dans l'année 2014-2015, a convoqué le synode sur la famille, et il y a eu ce changement qu'il y a la communion pour les divorcés et remariés, le grand parti des ultra-traditionalistes, des ultra-conservateurs, se sont mobilisés avec des pétitions, avec des réunions, avec des lettres au pape. Et il y a eu des cardinaux qui, pour la première fois dans l'époque moderne, ont mis en doute les capacités théologiques du pape. Il y a eu une contestation systématique, après sur des autres problèmes, le rôle des femmes si elles peuvent être diacones, si elles peuvent être prêtres, les rôles du célibat. Chaque fois qu'il y avait une question de réforme, il y a eu cette grande mobilisation des évêques, cardinaux, conservateurs, et surtout il y a un nouveau élément, que c'est l'élément des médias sociaux, qui n'existait pas encore tellement au temps du pape Ratzinger et qui n'existait pas tellement au temps de Jean-Paul II. Alors aujourd'hui, il y a un réseau des médias sociaux qui peuvent vraiment être très agressives contre le pape, contre les réformes, contre les hommes, contre les décisions qui prennent le pape. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on peut voir que pape François va au zigzag qu'il veut aller et après il s'arrête ou il change. Par exemple, au synode, la première session de l'année 23 avait discuté la question du diaconat féminin ou aussi la question du célibat. Et quand on est arrivé à la seconde session de l'année 24, alors, le cardinal Mario Grech a dit « Ah non, de la question du célibat des prêtres, on ne va plus discuter. » Et la question du diaconat féminin, maintenant, fait partie d'une commission spéciale qui va travailler auprès du dicaster de la foi. Alors, on voit que Toutes ces questions de réforme se déroulent dans une église vraiment déchirée.
Un climat de division. Michael Corse, ce programme, cette vision, ce projet que porte le pape François, à quel point tout cela est de son ressort à lui personnellement et à quel point aussi cela procède d'une réaction de l'Église à tout un contexte il y a une dizaine d'années quand il est arrivé au pouvoir, de profonde remise en question de l'Église. Il y a évidemment les scandales, les révélations liées aux affaires de pédocriminalité. Il y a aussi les Vatican Leaks qui ont révélé de graves problèmes sur la gestion financière du Vatican. Donc, à quel point aussi tout cela va jouer, à quel point la réforme est aussi une question de survie en 2013-2014, quand le pape arrive au pouvoir, qu'on soit d'accord ou pas avec les orientations idéologiques, à quel point c'est aussi une nécessité de l'institution ?
Oui, je crois que c'est important de revenir à l'élection du pape François, parce que du fait de sa personnalité et de la perception qu'on peut en avoir par les réseaux sociaux, je suis assez frappé de ce qu'a dit Marco Politi sur ce point. C'est vrai que ça change totalement la perception du pape, de ce qu'est un pape dans le monde contemporain. Avant sa personnalité, il faut voir le mandat qui lui a été fixé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un pape... Alors évidemment, l'Église et les croyants croient à une intervention de l'Esprit-Saint au moment de l'élection du pape, mais l'organisation de l'élection du pape, elle est organisée de sorte à ce que de sorte à ce qu'il y ait une sorte d'instrumentalisation ou une sorte de démocratique de cette intervention divine. Et c'est l'élection, tout simplement, au moment du conclave par les différents cardinaux. Et à un moment donné, pourquoi est-ce que le conclave de 2013 élit François ? Voilà, pourquoi est-ce qu'il fait le choix de ce pape-là ? Eh ben, on est à un moment donné où Benoît XVI vient de renoncer, c'est un séisme en interne. C'est-à-dire qu'une vacance papale, c'est un moment où il n'y a plus de pape, et un pape qui renonce, c'est des grands moments. Enfin, au Vatican, il faut imaginer que dans l'Église, les gens ont souvent une grande culture historique. Et on sait que c'est des moments particuliers de fragilité. Il peut y avoir des schismes. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où d'autres papes se sont déclarés. J'arrête là la parenthèse parce que c'est pas ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, Benoît XVI renonce parce qu'il dit qu'il ne peut plus exercer sa charge. Il n'est pas chassé, hein, c'est lui qui part. Il vient d'y avoir l'affaire Vatilix qui révélait des pressions, qui révélait le népotisme et la corruption au sein de la curie. On est dans des grandes affaires d'abus sexuels. Il y a aussi des grandes affaires financières. C'est-à-dire, il y a une pression financière. La Commission européenne commence à mettre la pression sur le Vatican en disant, si vous voulez continuer à utiliser l'euro, il va falloir vous mettre au standard de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'on est dans une institution qui aussi craint pour sa survie. On a toujours cette image de l'Église qui existe depuis toujours et qui du coup durera toujours. Mais institutionnellement, il y a aussi des éléments de fragilité. Et à ce moment-là, quand François arrive, du coup, il y a une nécessité de réforme. Si François commence à vouloir réformer la curie, à vouloir réformer l'IOR, la Banque du Vatican, à mettre en place des éléments de protection des mineurs, on pourrait faire le bilan de toutes ces questions, mais c'est à un moment donné parce que c'est le mandat qu'on lui a fixé. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il a une vision de l'Église. Cette vision, elle s'incarne aujourd'hui sur cette question de la synodalité. Tous les mots pour traduire synodalité sont toujours un peu une sorte d'affaiblissement du terme. Mais voilà, ça rejoint effectivement une forme de décentralisation, travailler sur la participation. Mais c'est aussi un retour aux origines. C'est-à-dire que la forme, la structure de l'Église naturelle, ça n'est pas la pyramide. Si vous dites que l'Église s'organise de manière pyramidale, par exemple, il n'y a pas d'œcuménisme possible. Vous ne pouvez pas commencer à dialoguer avec les orthodoxes ou les protestants. C'est impossible. Voilà, la forme originelle de l'Église, elle est beaucoup plus communautaire, avec évidemment la primauté du pape, mais parce qu'il est évêque de Rome, donc évêque parmi les autres évêques. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et à ce moment-là, voilà, il y a cette intuition du pape François que l'Église doit devenir plus synodale. Mais moi, je me souviens d'une personne haut placée dans l'organisation du synode, puisque le synode dans l'Église, ce n'est pas simplement ce synode, c'est-à-dire cette question-là posée par le pape François. Il y a un ministère au Vatican, un dicastère pour le synode, qui en fait organise des synodes réguliers. Donc là, c'était sur la synodalité, mais ça a aussi été sur l'Amazonie, par exemple, comment on fait dans un territoire immense quand il n'y a pas de prêtre. Ça a été sur la question de la famille, et puis ça sera sur d'autres questions. Ça a été sur la question des jeunes, etc., etc. Mais à un moment donné, je me souviens d'une personne haut placée dans l'organisation du synode qui me dit, mais en fait, si on réfléchit à ça, c'est pas par idéologie, c'est pas pour rendre l'Église comme ci ou comme ça. C'est parce que c'est une question de survie et on croit que l'Église, demain, pour qu'il y ait encore une annonce de l'Évangile qui soit entendue, eh bien, l'Église, elle doit changer. Et elle doit pas simplement changer pour s'adapter au monde dans l'Occident, sécularisé, etc., mais aussi dans d'autres régions du monde.
Restaurer la crédibilité et la confiance dans l'institution, mais aussi auprès des fidèles, et à commencer par les femmes.
La uguaglianza da uomini e donne ancora non si trova universalmente.
L'égalité entre les hommes et les femmes n'est toujours pas universelle. Les femmes sont encore des citoyennes de seconde classe. Nous devons continuer à lutter parce que les femmes sont un don. Dieu n'a pas créé l'homme puis un chiot pour le divertir, non. Il a créé deux êtres égaux, l'homme et la femme.
Voilà, extrait d'un documentaire intitulé « Femmes prêtres, vocation interdite » diffusé sur Arte en 2025 où François semble défendre l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'Église. Et ça a été un sujet au centre des réflexions du synode, mais vous le disiez, dans les conclusions, Marco Politi, ce sont des réformes qui ont été ajournées à plus tard. Est-ce que c'est le signe d'un échec personnel pour François sur ce plan-là, on peut le dire comme ça? Marco Politi? Alors, je ne sais pas si vous nous entendez encore, Marco Politi. On va essayer de rétablir la liaison, mais du coup, je vous pose la question, Michael Kor.
Alors, je pense que François, en tant que gouvernant, a fait un choix. C'est-à-dire qu'il a fait un choix, il a trouvé un angle d'attaque de cette question importante, comment ouvrir l'Église à une plus grande place des femmes. Le choix qu'il a fait, c'est mettre plus de femmes dans des postes en responsabilité. Et de ce point de vue-là, on peut pas dire qu'il n'a rien fait. Voilà, je crois que c'était en 2016, mais la directrice des musées du Vatican, aujourd'hui, c'est une femme, Barbara Jatta, c'est pas totalement rien comme poste. La cour d'appel au Vatican, qui est un organisme judiciaire, parce que le Saint-Siège est un État, donc c'est une femme depuis, je crois, 2021. On parlait tout à l'heure du synode sur la synodalité. Eh bien, c'est aussi une femme, une Française, sur Nathalie Bécard. Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Donc, il y a eu des choses comme ça. Et en même temps, quand on l'entend, là, dans l'extrait que vous avez choisi, moi, je revois François, on est en Belgique, on est à l'automne dernier, on est à la faculté de Louvain, où il est invité pour l'anniversaire de la faculté de Louvain, et il tient un discours très théologique, sans forcément beaucoup citer ses références. C'est un peu une marque de fabrique de François, quand il parle, il cite assez peu les références, donc il faut un petit peu, faut avoir une grande culture théologique, donc parfois on court un peu après les références. Et voilà, il parle de l'Église qui est une femme, et donc et du rôle différent entre l'homme et la femme qui est don, qui est ouverture à la vie, etc., etc., ce qui a provoqué l'ire des étudiants et étudiantes de l'université, qui ensuite ont fait publier un communiqué de presse pour se dire qu'ils se désolidarisent des propos de François qui étaient jugés réactionnaires. On a une sorte d'ambivalence comme ça, c'est-à-dire qu'on sent que François veut agir sur cette question de la place des femmes dans l'Église, c'est une question qu'il porte sincèrement, et en même temps, il a une vision traditionnelle d'une différence de genre entre l'homme et la femme. Mais ça n'empêche pas, par exemple, qu'il est aussi pragmatique sur la question du diaconat féminin. Par exemple, est-ce que les femmes peuvent devenir diacres? Donc diacres, là on parle des diacres permanents, parce que diacres c'est aussi... en fait, les prêtres, quand ils sont séminaristes, ils deviennent d'abord diacres et ensuite prêtres, mais il y a des diacres permanents qui donc peuvent accomplir certains sacrements, comme le baptême, mais qui ne seront jamais prêtres et qui peuvent être mariés. La question, c'est est-ce que les femmes pourraient devenir diacres? Le pape s'était dit fermement opposé. Il avait répondu non à une journaliste américaine qui lui posait cette question-là. Et puis là, on voit que pendant le synode sur la synodalité, comme la question est revenue, eh bien, il a laissé s'ouvrir un groupe de travail sur la question. Alors, certains vont dire il fait ça pour gagner du temps et ça ne verra jamais le jour. D'autres disent il y a une porte ouverte, on verra où ça nous mène, etc. etc. Donc voilà, les choses ne peuvent pas... Voilà, ma réponse est en demi-teinte, mais je pense que le bilan l'est aussi.
On a retrouvé Marco Politi, on parlait à l'instant de l'un des sujets majeurs qui avait été la question des femmes. Pour avancer, il y a, vous le disiez tout à l'heure, Marco Politi, un climat de division profond au sein du Vatican depuis plusieurs années et sous tout le pontificat du pape François. Aujourd'hui, que pèsent les courants conservateurs au sein de l'Église? On dit parfois que c'est un réseau qui est particulièrement bien organisé et que c'est l'une de ses forces. Et puis aussi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une répartition géographique de ces courants conservateurs? Autrement dit, est-ce qu'on les retrouve dans certaines églises issues de tel ou tel pays? Et si oui, lesquelles? Marco Politi? Alors, vous avez peut-être entendu la question, mais et je crois que vous êtes toujours en ligne, mais on ne vous entend pas. Je vais réessayer encore une fois, Marco Politi. Alors, je me retourne vers vous, Michael Kors, sur ce poids des conservateurs et sur leur répartition.
Alors, sur ce sujet, je dirais que pour moi, au sein du... Parce que la question, quand on pose la question des conservateurs, la question qu'on pose en creux, c'est que va-t-il se passer au prochain conclave? Et que vont-ils peser? Donc là, aujourd'hui, si un conclave était nommé aujourd'hui, il y aurait 136 cardinaux électeurs, c'est-à-dire de moins de 80 ans, qui se réuniraient dans la chapelle Sixtine pour désigner le futur pape. Moi, je pense que parmi eux, il y a une vraie prime à la modération. Voilà. C'est-à-dire que je pense que les plus conservateurs, comme les plus progressistes, de facto, peuvent effectivement travailler en réseau, avoir un poids dans les discussions, mais je pense que leur position un petit peu polarisée les exclut de fait comme candidats potentiels. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, des conservateurs, il y en a en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, mais il y en a aussi en Afrique. Mais on voit bien que des cardinaux ou des évêques très conservateurs américains et africains peuvent se retrouver sur des sujets comme par exemple eh bien le refus de certaines ouvertures imaginées par François et son administration au sujet des personnes homosexuelles. Là, je pense à Fiducia Supplicans, qui était un texte qui ouvrait à de possibles bénédictions de personnes en union homosexuelle, voilà, ce qui a généré une fronde. Mais donc, ils peuvent se retrouver sur ce genre de sujet, ou sur des sujets comme la défense de la vie, la lutte contre l'avortement, etc. Mais quand on va commencer à parler des migrants, par exemple, eh bien là, un conservateur américain et un évêque qu'on peut considérer comme conservateur en RDC ou dans un autre pays d'Afrique ne va pas du tout avoir la même perspective. Donc en fait, les lignes de clivage ou les lignes qui définissent des clivages, mais aussi qui définissent des points d'intérêt, elles vont dépendre, à mon avis, de choses beaucoup plus fines que simplement des progressistes d'un côté et des conservateurs de l'autre. Mais je pense par contre qu'aujourd'hui, un cardinal qui dirait la synodalité, c'est nul et non avenu, demain, l'après François, c'est on va solder toutes ces réformes, on va revenir, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce discours-là, il est non audible pour l'essentiel des cardinaux qui vont se réunir dans la chapelle Sixtine. Il faut imaginer que les cardinaux qui se réuniraient dans la chapelle Sixtine pour un conclave, 60 d'entre eux ont participé au synode sur la synodalité. Donc c'est-à-dire près de la moitié. Donc aujourd'hui, un cardinal qui dirait ça se disqualifierait. Mais un cardinal qui dirait, et il y en a certains hein, qui ont pris des positions publiques pour dire ben aujourd'hui, voilà, nous sommes pour des mariages homosexuels, ou etc. Aujourd'hui, je pense que ça les disqualifie tout autant.
Marco Politi, je crois qu'on vous a cette fois vraiment retrouvé. La décentralisation de l'Église, c'est vraiment un des horizons, un des caps fixés par le pape François. Est-ce que paradoxalement, ça pourrait conduire, cette autonomie accordée au niveau local, est-ce que ça pourrait conduire à une Église à plusieurs vitesses sur les questions qu'on a évoquées, la place des femmes par exemple, l'horizontalité, la place des laïcs, la toute-puissance du clergé, etc. Est-ce que on pourrait, selon les pays, selon les diocèses, les épiscopats, avoir comme ça une église qui applique une ligne de conduite différente?
Oui, en hypothèse, on pourrait, mais ça dépend si on arrive à une structure décentralisée. Le grand résultat de ce pontificat jusqu'à ce moment est aussi de comprendre que c'est la fin de la tout-puissance du pape. On pense toujours le pape peut décider. Non, c'est pas vrai, parce qu'on a vu dans ce pontificat que si le pape n'a pas derrière soi une majorité, ils ne peuvent pas imposer des choses. Et l'autre chose est que la curie n'est pas tout puissant. Nous avons un exemple très clair. Mon collègue déjà avait touché la question. Nous avons un exemple très clair. Le pape autorise le préfet du dicastère de la foi, son ami Fernandez, de dire « oui, c'est possible de donner la bénédiction aux couples homosexuels ». Il y a une grande révolte à une partie de l'Amérique, une partie des évêques de l'Europe de l'Est, et il y a un bloc complet continental des évêques africains, ou mieux de l'organisation, le symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et du Madagascar, qui disent « non ». Le cardinal, qui est le président de cette symposium, dit « je suis très loyal au pape, mais nous ne ferons jamais des bénédictions des couples homosexuels parce que ça ne correspond pas à notre culture ». Alors ça, c'est un exemple d'une réforme bloquée. Et la même chose, on l'avait avec le synode, disons, la conférence des évêques de la région d'Amazonas dans l'Amérique du Sud. Il avait voté avec une grande majorité, 2/3, de dire « bien, allons chez le pape pour dire s'il est possible d'avoir des diacres permanents mariés qui peuvent être prêtres ». Et alors, il y avait, disons, cet impulse à changer les choses, mais dans ce moment-là, il y avait une autre révolte des cardinaux. Il y avait le pape pensionnaire Ratzinger qui a écrit un livre paru en France pour la première fois avec un cardinal de la Curie, le cardinal Sarah, des profondes de notre cœur, il s'appelait comme ça, qui disait « ah non, c'est absolument impossible dans l'Église catholique de rite latin, c'est pas possible », et le pape était au pied de mur. Je me rappelle un grand cardinal français, c'était le cardinal Echegaray, il est mort maintenant, et il disait « bien, maintenant, dans les premières années, il y aura une sorte de lune de miel, mais après, le pape François se va trouver au pied de mur. » Alors, certaines fois, le pape est au pied de mur et ils ne peuvent pas avancer. Des autres moments, ils trouvent des autres voies. Par exemple, il n'a pas fait la réforme des femmes diacres, mais pour la première fois, il a décidé qu'il y a dans la curie romaine des femmes dans des postes de dirigeants, que ça n'existait pas avec les autres papes.
Pour bien comprendre, pardon.
Aussi.
Oui, pardon Marco Politi, pour bien comprendre votre raisonnement, toutes ces révoltes et ces résistances internes que vous décrivez, c'est donc pour vous le signe que le pape n'a pas ou n'a plus ce pouvoir absolu ?
Oui, absolument. Le pape n'a pas plus le pouvoir absolu qu'on en imagine, parce qu'on pense toujours, c'est pour des centaines d'années, le pape vraiment pouvait décider et la question était terminée. On disait en latin « Roma locuta, causa finita ». Rome a parlé, la question est terminée. Et maintenant, c'est pas plus comme ça. Alors, si cet pape ou le successeur veut faire des réformes, c'est important qu'il a derrière soi les conférences épiscopaux. Parce que maintenant, c'est un organisme, l'Église catholique, de 1,4 milliard de fidèles, et avec des différences culturelles, des différences sociaux, des différences, disons, idéologiques. Et on doit avoir une sorte de majorité. Vous demandez comment est la situation aujourd'hui s'il y a un conclave. Alors, il y a, comme dans l'Assemblée de la Révolution française, trois tendances. La tendance ultra-conservatrice, 30%, les réformateurs peut-être 20%, 25%, et après le centre, que c'est le grand marais,
comme dans la Révolution française. Le marais. Merci beaucoup pour cette petite comparaison, je suis obligée de vous couper parce qu'on va passer à la seconde partie de l'émission. Vous écoutez bien Culture Monde et c'est le premier épisode de notre série sur les catholiques dans le doute. Aujourd'hui, l'Église face au défi des réformes et dans un instant après la musique, on évoque l'un des sujets les plus graves, l'institution face aux violences sexuelles.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing.
Les temps sont en train de changer, titrait le magazine Rolling Stone en 2014, avec le pape François en couverture, en référence à la chanson de Bob Dylan. Vous écoutez bien Culture Monde, suite de notre émission sur l'Église catholique qui tente de se réformer et de faire face à la crise de confiance qu'elle traverse. Focus à présent sur l'Église de France, face à la demande de justice des victimes de violences sexuelles.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous remercions de tout cœur les personnes victimes et leurs collectifs. Nous sommes reconnaissants du compagnonnage qu'elles ont consenti à vivre avec nous. Leurs paroles, une fois encore, aident notre Église à faire la vérité pour combattre le mal qu'elle transporte, afin que nous soyons plus fidèles au Christ et à notre mission. Un chemin a été ouvert depuis la remise du rapport de la CIAZ. Il est à poursuivre encore et toujours. Il est essentiel qu'avec vous tous, nous progressions dans une culture de la vigilance et de la bientraitance, du respect à l'égard de toutes les personnes, en particulier les plus fragiles et les enfants.
Le président sortant de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, qui rappelait, c'était le 4 avril dernier à l'occasion de l'assemblée plénière à Lourdes, combien la prise de conscience et la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église avaient été au cœur de son mandat. Les efforts mis sur pied sont pourtant jugés insuffisants par une partie des victimes, qui craignent également que la vigilance ne se relâche, et ce, alors que les témoignages ne cessent d'affluer, qu'il s'agisse du cas de l'abbé Pierre ou des anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram. Bonjour Agnès de Mazières.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes historienne à l'Institut universitaire de France, autrice de « Sans loi ni foi, prêtres et violences sexuelles au cœur du système catholique ». C'est paru aux éditions Payot l'année dernière. Les évêques de France ont consacré cette année à Lourdes une journée et demie de leur assemblée plénière à l'écoute des victimes de violences, y compris de personnes étant passées par l'enfer de Bétharram. Je cite le cardinal Éric de Moulin-Beaufort. Est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est un signe de changement sur la prise en considération de la parole des victimes?
Alors d'abord, je voudrais préciser, je ne suis pas à l'Institut universitaire de France. J'ai fait mon doctorat à l'Institut universitaire européen de Florence.
Voilà, petite coquille.
Il n'y a pas de souci. Il me semble qu'on est quand même à 3 ans du rapport de la commission de la CIAZ. Voilà. Et qu'on a vu depuis 3 ans une multiplication des scandales. On pensait qu'à l'issue du rapport Sauvé, on arrêterait d'avoir ce genre de rapport. Et en fait, on en a une multiplication aussi, parce qu'on est dans une situation particulière en France, en fait. C'est qu'on a une multiplicité de commissions qui ont été érigées depuis le premier rapport établi. Et je dirais que ça, faut situer à la dimension mondiale, et ça me semble important de voir que dans nombre de pays, on a fait l'option plutôt d'une commission, mais nommée par les instances politiques. Ici, c'est les instances ecclésiales elles-mêmes mises en cause qui érigent leur propre commission. Et je dirais qu'il est important de voir les enjeux de ce mécanisme, en fait.
Et ça, c'est une spécificité de la France par rapport à d'autres pays qui ont été touchés par des révélations.
Par exemple, la Grande-Bretagne, l'Australie, on voit dans les États américains un souci de faire des commissions qui émanent des autorités politiques et judiciaires des États. Et je dirais que ça, c'est à prendre en compte et à alerter. Hein. Il me semble ça important. Il n'y a pas de fait dans ce domaine, puisqu'on a une commission parlementaire sur les violences scolaires, mais cette commission ne prend pas en compte l'ensemble des violences sexuelles commises dans l'Église catholique. Elle ne prend pas en compte, par exemple, la pédocriminalité commise par des prêtres, des religieux ou même des laïcs catholiques dans d'autres lieux ecclésiaux. Voilà. Et deuxièmement, elle ne prend pas en compte la question aussi des violences sexuelles commises sur des adultes. Et je dirais que ça, c'est aussi un phénomène important dont il faut que l'Église se prenne davantage en main. Et notamment, je dirais que ce qui n'a pas été non plus beaucoup mis en lumière, mais qui apparaît de manière diluée par ces diverses commissions, c'est que nombre de commissions, en fait, sont des commissions érigées autour de congrégations religieuses. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas suffisamment pris en compte. Le fait que des communautés religieuses qui font vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, en fait, sont des lieux où il y a une sphère d'impunité encore plus forte, justement, concernant les violences sexuelles. Et ces communautés religieuses, en plus, aujourd'hui, en fait, ont tendance à moins s'investir auprès des enfants, mais davantage auprès des jeunes adultes. Et donc, je dirais que du coup, voilà, il y a des sphères d'impunité qui sont particulières dans l'Église catholique qu'il s'agit d'examiner. Et pour l'instant, on en est un peu, vous voyez, à une première étape qui a été faite, je dirais, une écoute des victimes, voilà, une mise en cause des agresseurs. Mais la sphère de dissimulation demeure. Et on l'a bien vu, notamment autour de l'affaire de l'abbé Pierre, où ce qui a fait scandale aussi, c'est qu'on s'est aperçu que nombre de responsables d'église, aussi qu'apparemment des membres de commission étaient au courant. Hein. Et je dirais que là, il y a une vraie question aussi, la question de la non-dénonciation et de l'impunité dont bénéficient certains.
Sur le cas de l'abbé Pierre, la Conférence des évêques de France a demandé à la justice de l'État français l'ouverture d'une enquête donc pour non-dénonciation de viol et agression sur mineurs pour établir les responsabilités de l'entourage de l'abbé Pierre. La justice a répondu que cette enquête n'aurait pas lieu car les faits sont prescrits, ce que justement cette capacité de la hiérarchie de l'Église à conserver, à dissimuler, à imposer le silence et jusqu'à souvent la prescription sur la justice légale, civile. Est-ce que ça reste un des principaux problèmes dans la lutte contre les violences sexuelles?
C'est quand même un des problèmes majeurs, parce que comme dans le cas de l'abbé Pierre, on a d'autres cas où on attend que le fondateur d'une association décède pour sortir les choses. Et on s'aperçoit, qu'on s'aperçoit? Les responsables restent en place, ils nomment une commission. Il faut être lucide aussi sur les enjeux politiques d'une commission. Une commission rend ses résultats 2 ou 3 ans après, le scandale est passé, et puis, comme c'est les responsables eux-mêmes qui ont nommé la commission, ils sont rarement mis en cause. Je dirais qu'il faut être lucide sur ces enjeux de commission. Et deuxième chose...
Y compris la commission sauvée, par contre, pardon, parce qu'en 2021, la mise en place, enfin, le rapport qui est rendu par la commission sauvée, donc la CIAS, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, on rappelle que c'est une commission mise en place par l'Église elle-même. Est-ce que vous considérez qu'elle n'a pas été un tournant? Parce que quand elle a rendu son rapport, ça a quand même eu l'effet d'une claque, plus ou moins, pour la communauté catholique, avec les chiffres qui ont été mis sur la table, et puis surtout la reconnaissance d'une responsabilité institutionnelle. Est-ce que ça n'a pas été, à vos yeux, un tournant, cette commission?
Si ça avait été vraiment un tournant, on n'aurait pas eu cette série de scandales. Et je dirais qu'il y a quand même le point aveugle de l'abbé Pierre. Pourquoi cela n'a pas été révélé? Voilà. Et je dirais que ça, c'est une vraie question.
La CIAS est passée à côté de l'abbé Pierre.
Exactement. Je dirais que ça, c'est une question. Et je dirais la question, est-ce que aussi on est passé à côté de l'affaire Bétarame? Je dirais que là, on a des questions. Et là, je le signale comme historienne. Je dirais la nécessité que l'ensemble des historiens, pas seulement les membres des commissions, aient accès à ces documents archivistiques. Parce que je dirais que faire partie d'une commission vous donne des informations privilégiées, vous donne des scoops que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas. Mais je dirais qu'il y a une question de silence aussi, je dirais, de la communauté scientifique. Et je dirais que la communauté scientifique est aussi, je dirais, responsable et doit réfléchir sur ses pratiques. Mais ce sur quoi je voudrais revenir aussi, je dirais, la nécessité que l'État prenne en main les choses, c'est que vous voyez qu'il y a quand même des questions juridiques. La question du délai de prescription, voilà. Des questions de la non-dénonciation et aussi de la prescription du délit de non-dénonciation, puisque dans l'affaire Abbé Pierre, on a vu que c'était le cas. Voilà. Et je dirais aussi une troisième question. Il y a la question aussi que, en fait, les violences sexuelles appartiennent à une sphère d'abus dans l'Église. C'est-à-dire que ce n'est pas un abus isolé, mais que l'impunité est présente auprès d'autres abus qui s'agirait d'aussi investiguer davantage. Et que la séparation de l'Église et de l'État ne peut pas servir de prétexte à couvrir ces abus et à faire une justice parallèle de l'Église catholique. Je signalerai par exemple la question des abus sociaux, hein, le respect du droit du travail, les abus financiers, etc. Et je dirais qu'il y a une réflexion à mener de manière générale. Parce que si on couvre certains abus, du coup, les violences sexuelles, on va se dire, pourquoi voilà. Il y a une impunité qui est suscitée par l'institution.
Alors. Est-ce que ça veut dire que l'Église ne collabore pas suffisamment avec la justice de l'État?
Je dirais que c'est pas seulement collaborer, c'est dire qu'elle respecte la justice de l'État et que catholique et citoyen français et donc se respecte les lois françaises et ne cherche pas à faire sa propre justice, une justice parallèle.
Et donc, par exemple, quand l'Église met en place en 2022 en France un tribunal pénal canonique national, le TPCN, chargé de juger les membres du clergé accusés de violence, c'est une forme de justice parallèle à vos yeux ou ça peut se faire en parallèle d'une justice civile et c'est un moyen d'avancer dans la lutte contre l'impunité.
Bon, je dirais que c'est pas neuf parce qu'avant c'était les diocèses qui avaient cette possibilité-là ou le Vatican.
La différence, c'est que là, c'est géré au niveau national pour éviter des phénomènes d'entre-soi dans un diocèse.
Mais je dirais que ça pose quand même question. Voilà, je dirais que ça pose la question. Premièrement, je dirais que peut-être que la priorité, c'est pourquoi la justice française ne peut pas agir? Et je dirais que c'est là où il faut travailler. Et c'est là où il me semble que, voilà, les autorités politiques et judiciaires doivent s'engager. Hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais qu'il faut prendre conscience de quelle est la nature de la justice, hein, du régime de justice dans l'Église catholique. Quand même, je dirais, le message évangélique, c'est la supériorité de la miséricorde sur la justice. Donc, je dirais que vous voyez qu'il y a un enjeu à l'égard, justement, des coupables à cause et si la miséricorde l'emporte sur la justice. Et ensuite, ce que j'ai démontré dans mon livre historique sur l'histoire, justement, des violences sexuelles, c'est que cette justice est bien souvent arbitraire. C'est l'arbitraire du prince, on tient compte de la réputation des personnes, etc. Donc, je dirais qu'on n'est pas dans le même cadre judiciaire. Et je dirais qu'il y a la question aussi, est-ce que la séparation de l'Église et de l'État justifie une justice parallèle ou au contraire, justement, le fait que tout catholique est soumis aux règles de la République?
Merci infiniment Agnès de Mazières. Je rappelle donc docteur en histoire et c'était à l'Institut universitaire de Florence, pardon pour la coquille tout à l'heure. Votre ouvrage « Sans loi ni foi, prêtres et violences sexuelles au cœur du système catholique » est paru aux éditions Payot et je remercie nos deux invités de la première partie de l'émission Marco Politi. Je signale l'ouvrage à paraître fin mai, François, l'Église déchirée, c'est aux éditions Plon. Et Michael Corr, journaliste à La Croix, chargé de l'actualité du Vatican. On peut vous lire, bien évidemment, sur le site et le journal papier de La Croix. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Catherine, aujourd'hui, à Gaza, c'était l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza.
Le dernier, opérationnel même dans la ville de Gaza. L'hôpital Al-Ali a été visé par une frappe israélienne hier, indique notamment le journal qatarien The Peninsula et le quotidien israélien Ma'ariv. Une petite fille qui était soignée pour une blessure à la tête est morte dans l'évacuation précipitée de cet hôpital par manque d'oxygène. Elle est morte dans le froid de la rue, précise le Washington Post et la BBC qui reprennent un communiqué du diocèse épiscopal de Jérusalem. Il fait partie de l'église l'église anglicane et gère l'hôpital Al-Ali, explique la BBC. L'église anglicane se dit choquée par ce nouveau bombardement d'un hôpital dans la bande de Gaza, qui plus est le dimanche des rameaux et au début de la Semaine Sainte, relève la BBC. Sur place, dans la ville de Gaza, un médecin en blouse blanche et des habitants observent les ruines de l'hôpital, consternés, presque résignés, comme on peut le voir dans une vidéo de l'AFP relayée par le New York Times. Alors que la frappe aérienne a laissé un trou béant dans le bâtiment, aux portes en fer arrachées, de gros blocs de béton et des amas de métal tordus jonchent le site. Selon la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, affiliée au Hezbollah, l'attaque a provoqué une panne de courant dans tout l'hôpital. Rapporte également le journal israélien Haaretz, et l'armée, citée par le Times of Israel, dit, elle, avoir visé un centre de commandement du Hamas situé dans l'hôpital, sachant que l'organisation terroriste se sert des civils et des bâtiments publics comme boucliers humains, rapporte le journal israélien Maariv. Mais pour l'heure, note la BBC, rien n'indique la présence de membres du Hamas. Le média public britannique et le Washington Post racontent comment les 200 patients et membres du personnel de l'hôpital ont eu 20 minutes pour évacuer le site après un appel de l'armée israélienne un peu avant 2h du matin. S'en suivent des scènes de chaos que décrit au Washington Post un chirurgien de Chicago qui était sur place. « J'étais assailli par les patients. Peur et panique », déclare ce médecin qui est donc resté à l'hôpital, en partie parce qu'il pensait que c'était moins dangereux que l'extérieur, mais aussi parce que tous les patients ne pouvaient pas être évacués. Un père de famille gazaoui raconte à l'émission Gaza Lifeline de la BBC Arabique qu'il avait pu s'enfuir, lui, de l'hôpital avec ses trois filles blessées, dont l'une amputée à la jambe, l'autre à la main. Seulement 2 minutes nous ont séparés de la mort. Toute la nuit, à l'intérieur de l'hôpital, c'était l'horreur, confie un patient, Mohamed Abou Nasser, assis sur son lit d'hôpital, poussé par un proche parmi les gravats, comme le montrent l'AFP et le New York Times. En tant que patient, on est censé aller où en pleine nuit? S'enfuir où? Demande-t-il. Des patients brûlés et ou amputés n'ont, eux, pas pu s'enfuir, raconte également Al Jazeera. Pour la chaîne Qatari, cette frappe israélienne ne fait qu'aggraver la situation déjà catastrophique pour le système de santé de la bande de Gaza, entre bombardements et blocus sur les médicaments ou le carburant.
Et de plus en plus d'Israéliens demandent la fin de la guerre. Mais le gouvernement Netanyahou veut au contraire étendre son contrôle sur l'enclave palestinienne.
L'armée a effectivement pris le contrôle de l'axe clé de Morag, explique le quotidien israélien Makor Rishon, un axe qui sépare les deux principales villes du sud de Gaza, précise le New York Times. Rafah, près de la frontière égyptienne, et Ran Younes, dans le sud du territoire palestinien, dévasté et assiégé. L'armée a ensuite appelé des dizaines de milliers d'habitants de Ran Younes à évacuer en prévision d'une opération de représailles à des tirs de roquettes lancés depuis le sud de Gaza vers Israël, ajoute le Washington Post et le journal israélien Yediot Aharonot. Amir Avivi, ex-général à la tête d'un cercle de réflexion israélien conservateur, affirme dans les pages du journal Maariv que les plans de prise de contrôle de Gaza sont prêts. La question n'est pas de savoir si, mais quand ils seront mis en œuvre.
Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'affirme, seule une pression militaire accrue peut conduire le Hamas à libérer les otages du 7 octobre.
Mais une centaine d'anciens élèves du Collège de sécurité nationale d'Israël ont, eux, signé une lettre appelant le gouvernement israélien à arrêter la guerre à Gaza. Seule solution, selon eux, pour obtenir la libération des otages, explique le journal israélien de gauche Haaretz. Et cette lettre rejoint la récente vague de pétitions qui a débuté avec 1 millier de réservistes de l'armée de l'air israélienne. Ils ont appelé, eux aussi, à arrêter la guerre dans la bande de Gaza, rejoint entre autres par d'anciens agents du Mossad, d'anciens élèves de la marine israélienne. Pour le magazine israélo-palestinien Plus 972, ce sont 100 000 Israéliens au total qui auraient cessé de participer à leur mission de réserve, ce qui témoigne pour le média Plus 972 du déclin de la légitimité de la guerre. Et l'affaire du Qatar Gate continue d'ébranler la confiance dans le gouvernement Netanyahou. Je vous en parlais le mois dernier, des proches du Premier ministre israélien sont soupçonnés d'avoir reçu des fonds du Qatar pour promouvoir les intérêts de l'émirat du Golfe, hôte, on le sait, des dirigeants du Hamas. Benjamin Netanyahou est prêt à détruire l'État pour son propre profit, affirme le média Plus 972.
Merci beaucoup Catherine Dutieux. Dans un instant, on retrouve les midis de culture par Marie Laborie.